11h et on retrouve François Malabeuf pour l'émission des correspondances. Bonjour.
Oui, bonjour Emeline, bonjour à tous. Deuxième émission des correspondances 2011 avec un très beau programme et des beaux invités. Pour cette émission, nous allons parler bien sûr du programme du jour. Nous entendrons aussi une lettre à plume et à poil lue par Raphaël Franz Kuhlmann. Mais j'ai le plaisir aussi de recevoir Jean Lautré, le plasticien des correspondances, ainsi que Marilyn Viard de l'association Empreinte. Nous parlerons gravure et littérature. Et nous parlerons littérature aussi et musique avec Bastien Lallemand. C'est un musicien qu'il faut découvrir et qui sera en concert tout à l'heure à 18h à Manosque. Belle inauguration hier sur la place de la mairie pour les correspondances avec un hommage qui a été rendu bien sûr à Jean-François Michel. Je vous propose d'écouter aujourd'hui Olivier Chaudançon, le président des correspondances qui nous détaille le programme de cette belle journée ensoleillée sur Manosque, 22 septembre 2011. Olivier Chaudançon, premier jour complet des correspondances.
Le jeudi 22, en effet, on commence très fort, comme si c'était le week-end quasiment, hein, puisqu'on donne rendez-vous dès 11h pour le traditionnel apéro littéraire qui recevra René Frény, bien connu des Manosquins, et David Thomas, un auteur qui vient de recevoir le prix Orange du livre. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ils se sont rencontrés il y a une bonne vingtaine d'années à Cadaquès. Donc voilà, ils se connaissent et ils vont se reconnaître. Et puis ensuite, une après-midi très chargée, au bon sens du terme, avec Antonio Altariba. Là, c'est un auteur de romans graphiques, comme on dit, la bande dessinée qui devient romanesque pour son livre L'art de voler. Rossé, qui est en résidence à Manosque, qui fera une rencontre publique avant son concert littéraire qui sera plus tard, le samedi. Le biographe de Céline, qui sera parmi nous. Il va nous raconter Céline en toutes lettres, donc la vie de Céline, et puis ce que nous disent les correspondances de Céline sur l'artiste, le bonhomme, et donc démêler un petit peu cette chose compliquée, puisque c'est à la fois un des grands auteurs français du XXe siècle, et puis aussi un sale type. Donc voilà, et on va faire la part des choses et en apprendre beaucoup. Toujours cet après-midi-là, Kamel Daoud, jeune écrivain algérien formidable. Il est journaliste également. Il a écrit des nouvelles sur l'Algérie contemporaine, très très puissante. On retrouvera David Thomas, donc le prix Orange du livre, là pour une rencontre où il sera seul pour parler de son livre. Un duo, Fabio Viscogliosi et Noël Herp. Pour deux récits intimes, Fabio parle de ses parents qui sont morts dans l'incendie du Mont Blanc. Et Noël Herp pour un journal intime. Voilà, deux auteurs qui auront des choses à échanger. L'arrivée de la musique à 18h avec Bastien Lallemand, jeune chanteur que j'aime beaucoup, qui a fait un album qui s'appelle Le Verger sur le roman noir, on peut dire. Donc il va tresser des liens entre son travail musical, ses chansons, et puis la littérature qu'il aime, donc les auteurs de romans noirs, mais aussi Jean Giono, qu'il affectionne très particulièrement. Voilà donc une après-midi bien garnie, et puis alors une soirée au théâtre de Jean Lebleu à 21h, Olivia Ruiz, qui nous dévoile sa bibliothèque. Donc elle vient lire les textes qu'elle aime, elle en a mis certains en musique, évidemment elle basculera de temps en temps sur des chansons à elle. Je crois que ça va être une très grande soirée. Je rappelle que cette soirée affiche complet, mais que l'usage et l'habitude fait qu'on trouve toujours quelques places à la billetterie du théâtre, puisqu'on en remet toujours une vingtaine en vente le soir même. Donc pour ceux qui seraient trop déçus, je leur conseille de se présenter au théâtre un peu avant, et on arrive en général à satisfaire à peu près tout le monde. Et puis fin de soirée avec un des habitués des correspondances, à 22h30, nous recevons Bertrand Belin, qui vient nous refaire un concert littéraire. Il était venu il y a 3-4 ans, je crois. Et bien là, c'est une sorte de carte blanche. Il va nous lire lui aussi les auteurs qu'il aime, des poètes, mais je sais qu'il a parlé aussi de Herman Melville, Malcolm Lowry, et donc ce sera des lectures musicales, des chansons de Bertrand Belin. Voilà une surprise comme on les aime aux correspondances.
Jean Lautré, le plasticien des correspondances. Je suis très heureux de recevoir cet orfèvre des correspondances. C'est important, les écritoires à Manosque, Jean ?
Oui, oui, enfin, dans le cadre du festival, c'est... Pardon. Oui, dans le cadre du festival, c'est effectivement important. Et c'est une des dimensions de ce festival. On va peut-être en reparler, je pense.
Bien sûr, ça veut dire que des écritoires, d'abord, ce sont des endroits qui sont magnifiques au niveau visuel. Je pense à la scène qui est à la place de l'Hôtel de Ville, avec des livres qui sont un petit peu de guingois, hein, quand même, depuis 2 ans. Là. C'est une idée de Jean Lautré, des sièges aussi magnifiques. Des chaises longues cette année, des chaises longues qui empruntent à Proust, au Flaubert, par exemple. Quelle drôle d'idée d'avoir mis un texte sur une chaise longue, Jean ?
Oui, il s'agissait effectivement d'inviter les gens à lire, d'une part, et à éventuellement s'asseoir en même temps. Ces chaises longues ne sont pas des écritoires à proprement parler, c'est des endroits de détente qui sont répartis dans la ville, comme ça. Et puis, alors après, il y a donc des écritoires qui sont des endroits où on essaie d'inviter les gens à écrire. Voilà. Il y a toutes sortes d'autres occasions de lire, de rencontrer des auteurs, d'entendre des lectures, mais il s'agit aussi là d'écrire. Donc, ces endroits sont faits pour ça, c'est-à-dire qu'ils sont d'une certaine originalité plastique d'une part, et puis d'autre part relativement confortables pour l'action d'écrire. Et
ça nous permet de rappeler cette mission première des correspondances La Poste, c'est justement d'écrire une lettre à qui vous voulez et puis de la poster dans le cadre des correspondances. Donc des écritoires qui incitent à l'écriture, Jean, c'est ça ?
C'est ça.
Plus que d'inviter.
Oui, ça incite, c'est vrai, c'est plus que d'inviter, effectivement. J'en profite quand même pour rappeler aussi, puisqu'il s'agit d'écrire et d'expédier ces courriers aux gens auxquels ils sont adressés, il y a des boîtes aux lettres particulières des correspondances qui sont devant le point d'accueil Place de l'Hôtel de Ville, devant la Maison des Jeunes et devant l'Hôtel Volant. Hein. Et ça, c'est des boîtes qui permettent d'envoyer le courrier directement. Donc, il n'est pas utile de poster dans les boîtes La Poste. Voilà.
Et puis, l'affranchissement est assuré par les correspondances.
Par les correspondances, voilà.
Il y a aussi, il faut le signaler, des boîtes aux lettres gigantesques. Et si vous n'avez jamais écrit une lettre dans une boîte aux lettres, vous pouvez le tester à Manosque. C'est pas mal. C'est une idée assez intéressante avec les copains qui viennent vous regarder par les fentes de la boîte aux lettres pour savoir si vous avez terminé de rédiger votre courrier. Vous avez vous-même écrit pendant les correspondances, Jean ?
J'écris un peu, oui, à chaque fois.
Donc de tester soi-même les écritoires.
Voilà, voilà. Oui, puis l'expédition, le système des boîtes aux lettres aussi, voilà, c'est important quand même parce qu'il s'écrit environ 20 000 lettres à peu près chaque année. Et c'est bien que ça se passe bien jusqu'au bout, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui guide votre imagination quand vous créez un écritoire ?
Ah, c'est oui, ça fait effectivement souvent référence à des souvenirs d'enfance ou des choses comme ça, parce que c'est une démarche qui est difficile à décrire parce que c'est très particulier. Voilà, c'est imaginer l'univers dans lequel on a envie d'écrire.
Avec tout d'un coup l'utilisation de l'eau, avec l'utilisation de mobiles, de livres par exemple, j'en parlais tout à l'heure.
Il y en a plusieurs qui sont effectivement des livres dans lesquels on entre et on s'installe, qui sont de gros livres. Et puis il y a eu effectivement beaucoup d'autres, mais pour ça il faut consulter le guide des écritoires qui est au point d'accueil, Place de l'Hôtel de Ville, et puis éventuellement dans une balade comme ça, aller les reconnaître les uns après les autres.
Qui est disponible partout en ville à Manosque. Vous pouvez d'ailleurs faire le tour des écritoires aussi, c'est assez sympa. Et puis malheureusement, vous m'avez appris une très mauvaise nouvelle, les pousses-pousses n'existent plus, Jean.
Alors, pour le moment, ils n'ont pas été sortis, il y en avait deux.
Je rappelle, c'était des pousses-pousses formés dans de grandes virgules et qui permettaient une déambulation en Manosque, notamment aux familles avec des petits-enfants, et c'était assez sympa.
Voilà, avec l'écriture en même temps, puisque c'est des endroits sur lesquels on pouvait écrire. Voilà. J'en profite aussi pour rappeler l'existence de lieux d'écriture qui sont sous forme de fauteuils dans le jardin du centre Giono. Il y a 6 fauteuils comme ça pour s'asseoir écrire et un écritoire particulier qui est très bien végétalisé. C'est un très bel endroit à voir aussi.
Comment est-ce que vous choisissez les textes que vous mettez aussi bien sur vos écritoires que sur les chaises longues par exemple ?
Alors on en parle avec le bureau des correspondances et il faut que ces textes soient évidemment libres de droits d'auteur parce que sinon ça complique énormément, puis il faut faire ensuite des déclarations, etc. Et donc voilà, c'est forcément des textes qui sont pas de la plus grande actualité, mais par contre c'est des valeurs sûres comme voilà Flaubert, Proust, Rimbaud beaucoup cette année aussi.
Il faut pas hésiter à tester aussi ses sièges avec et puis pour une fois s'asseoir sur la littérature, hein, s'asseoir sur Hugo ou Proust, c'est quand même quelque chose. Donc on peut le faire dans le cadre des correspondances, c'est une excellente chose. À nos côtés, Jean Lautré, quelqu'un que vous connaissez peut-être pas qui s'occupe d'une association à Manosque, une association de graveurs, Marilyn Viard de l'association Empreinte. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici à Manosque pour parler de cette association. En quelques mots, l'association Empreinte, c'est quoi, c'est qui ?
Alors l'association Empreinte, c'est une association de graveurs et de graveuses de Manosque et des environs. L'association a été créée en 2001 et utilise un local dans le centre-ville, donc on est vraiment des acteurs de Manosque. Nombre de graveurs et de graveuses viennent graver ici régulièrement. Il y en a qui sont un peu plus loin et qui nous envoient des gravures. C'est d'ailleurs par ce biais qu'on intervient aussi dans les correspondances, puisque
on va y venir tout à l'heure. Voilà.
Donc on dispose d'un local qui est tout à fait parfait pour. On est dans le centre-ville, on a une presse, on a plusieurs presses, on a de l'eau, enfin on a tout notre matériel un peu pour faire nos bidouillages. Et on est vraiment très heureux de profiter de ce local qui nous est prêté par la mairie, qu'on remercie chaleureusement parce que c'est vraiment un chouette lieu.
Et pour les correspondances, vous avez ouvert la porte tout grand et elle reste très ouverte.
Elle reste très ouverte. Donc pendant toutes les correspondances, nous accueillons le public à venir tester avec nous. Donc on leur montre et chacun peut repartir et envoyer, peut repartir avec des gravures ou les envoyer, c'est encore mieux. Donc ce matin, le matin c'est ouvert pour les écoles. Donc tout à l'heure, là on avait une classe... des enfants partout dans l'atelier qui tournaient la manivelle et c'était très joyeux. Les enfants en particulier font des choses remarquables, donc c'est toujours un grand plaisir pour nous de les accueillir. On fait découvrir la gravure, donc peut-être parmi eux, y aura-t-il des futurs graveurs.
On l'espère avec vous. Et puis vous avez aussi participé au vernissage de l'exposition de la galerie chez Fred avec l'écrivain manosquin René Frény qui a lu quelques textes. Comment ça s'est passé ce vernissage et puis quelle coordination entre tout ça, tous ces acteurs culturels locaux?
Alors tout simplement, René Frény fait partie du circuit culturel de Manosque. Il est très connu ici. Nous, on est aussi, enfin, on commence à être un peu connus sur Manosque. L'exposition consistait en un livre d'artiste, donc qui s'appelle Série Noire, et ça se prête bien au texte. Enfin, ça va tout à fait bien avec les textes de René Frény. Donc, on a lu quelques textes de René. On a lu des textes de Simenon. On a lu des textes qui ont été écrits aussi pour l'occasion par d'autres graveurs. Et toutes ces gravures donc étaient en noir et blanc, bien sûr. Pour Série Noire, on n'y échappe pas. Et c'est une très belle exposition que je vous invite à voir pendant toutes les correspondances et même jusqu'au 30 septembre.
C'est ça, elle est prolongée jusqu'au 30 septembre. Voilà. La galerie chez Fred, c'est 14 rue Kléber à Manosque. Oui. Les activités de votre association, vous avez d'autres projets? Combien il y a de personnes dans votre association, justement, Marilyn?
On est une vingtaine de graveurs, dont une dizaine qui viennent graver régulièrement sur place. Et puis les autres sont un peu plus loin, donc on s'échange des gravures, ben, toujours par la poste, bien sûr. D'où les correspondances. Alors pour les correspondances, justement, on correspond donc avec des gens qui sont un petit peu en France, mais aussi avec des Danois et des Suédois. On est régulière, enfin tous les ans maintenant, depuis quelques années, on correspond avec des ateliers comme nous, qui travaillent comme nous au Danemark et en Suède.
Vos amis danois et suédois vont venir vous voir un jour?
Ça arrive, cet été on a eu la visite d'un Danois. Je ne vous prononcerai pas son nom parce que c'est...
Oui, le nom des ateliers aussi est imprononçable, j'arriverai pas à le prononcer moi-même. Vous avez l'opportunité quand même, malgré tout, vous, organisateurs, participants des correspondances, d'aller de profiter des soirées, des rencontres, des cafés littéraires, des spectacles.
Alors dès qu'on a fermé l'atelier, bien sûr, parce que là depuis mardi, on est dans l'atelier, donc on n'a encore pas pu voir les écritoires puisqu'on était dans l'atelier, mais bien sûr, je vous engage à venir à l'atelier déjà pour voir nos correspondances et aussi pour écrire, puisqu'on a un petit écritoire, on a réservé un petit espace dans notre atelier pour écrire. Et puis, on peut participer, bon, on fait des tours de rôle, bien sûr, pour animer l'atelier. Donc, on va se dégager un petit peu du temps pour aller, pour circuler en ville. Et puis, les spectacles le soir, c'est cadeau, quoi.
Donc c'est vous en profitez aussi.
Voilà,
Jean,
bien sûr.
Jean, c'est pareil, le plasticien des correspondances a l'opportunité de temps en temps d'aller assister à un café littéraire ou d'aller à un spectacle.
Oui, absolument, tous les
avec
jours.
Avec gourmandise.
Oui, vraiment. Non, je vais aussi profiter que je reprends la parole pour dire que tout ça se passe bien parce qu'on a des appuis techniques important puisque c'est du mobilier urbain finalement qui est très encombrant et donc les services techniques de la ville sont parfaits pour l'installation les deux premiers jours du festival, enfin avant les deux premiers jours du festival et puis deux jours aussi après le festival avec aussi Arstock et Blasco Ruiz, voilà,
qui installent, de saluer tous ces gens qui travaillent avec vous.
Ça serait infaisable sans cette énergie-là.
Oui. J'ai même vu un certain François Bonne hier vous donner
François Bonne a mis la main à la pâte.
Il est écrivain, il tient le bar des correspondances. Il est à la une de Libération aussi aujourd'hui je crois. C'est bien François qui sera notre invité samedi en plateau ici même. Donc pour vous c'est un bonheur les correspondances.
C'est vrai.
Marilyn, c'est pareil.
Ah oui, c'est toujours un plaisir. Depuis avant la gravure, je viens avec délectation aux correspondances, bien sûr.
Et j'espère que ça va durer. J'espère bien avec vous. On va vous remercier tous les deux et merci encore et bravo Jean pour le travail que vous faites. Et chaque année, on se revoit avec grand plaisir sur les correspondances. Et cette année, j'ai eu le plaisir de vous avoir en plateau. J'en suis très heureux. Merci aussi Marilyn, que je vois beaucoup plus souvent puisqu'elle est manosquine et en tout cas du bassin manosquin. Toutes nos amitiés à vos amis de l'atelier Empreinte. Je vous propose d'écouter un comédien qui participe aussi au travail du comité de lecture à Manosque. Vous le connaissez bien tous les deux. Il s'agit de Raphaël Franz-Kuhlmann. Il lit sur notre antenne jusqu'à la fin des correspondances des lettres à plumes et à poils. C'est un livre assez étonnant de Philippe Le Chermeilleur et avec des dessins de Delphine Perret et il nous raconte depuis hier les lettres d'un certain renard à une certaine poule. On se retrouve tout de suite après avec Bastien l'Allemand.
Madame la poule, c'est le cœur gros que je reprends la plume et si je n'étais pas habité par un ultime espoir, je crois que le peu de force qui m'anime encore m'aurait depuis longtemps abandonné. Dans votre lettre, vous me rapportez que votre mari Lecoq aurait déclaré que lui, vivant, jamais sa fille ne fréquenterait un vulgaire voleur de poules comme moi. Ou alors, a-t-il ajouté, le jour où les poules auront des dents. Et que s'il me voyait à nouveau traîner à côté du poulailler, il appellerait le fermier pour qu'il vienne me faire tâter de son bâton. Et vous avez ajouté que, bien que ne partageant pas l'analyse de votre mari, et me considérant comme un parfait gentleman, vous vous rangiez derrière sa décision au risque de me décevoir. Depuis ce jour, je suis comme une âme en peine. Je maigris, je dépéris. Pas une minute ne passe sans que je pense à votre fille, et je ne peux m'empêcher de songer à ce que serait notre vie ensemble. Mais ces rêveries me font plus de mal que de bien, et dès que je reviens à la réalité, je me retrouve avec une existence triste et fade, comme un jour sans viande. Je ne mange plus. Mes amis s'inquiètent. Ils me disent que je n'ai plus que la peau sur les os, qu'il faut que je me ressaisisse. Mais comment leur faire comprendre? Votre fille, je l'ai dans le pelage, c'est plus fort que moi. Pourtant, j'ai joué franc jeu avec vous. J'aurais pu continuer à fréquenter votre fille en cachette, aux abords de votre basse-cour. Mais je trouvais plus convenable d'officialiser notre relation eu égard à votre famille. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup d'admiration pour vous et ceux de votre espèce. Malheureusement, depuis ma lettre, votre mari, en plus des menaces qu'il a proférées à mon égard, a interdit à votre fille si délicieuse de me voir. Elle est consignée au poulailler toute la journée et elle n'a même plus le droit de venir jusqu'au grillage, où nous avions l'habitude de nous retrouver, pour échanger des mots tendres. Quelle cruauté! Mon cœur saigne devant tant d'injustices. Le jour où les poules auront des dents. C'est fin, ça. C'est bien trouvé comme trait d'esprit. Je me demande bien à quoi une dentition comme la mienne pourrait vous servir. Pour avaler des grains de maïs, votre mignon petit bec peut bien suffire. Et puis, c'est un vrai travail que d'entretenir des crocs comme les miens. Ça prend un temps fou, vous n'y songez même pas. Pour que mes dents soient bien blanches, sans caries, je les brosse 3 fois par jour et je vais régulièrement chez le dentiste afin qu'elles brillent comme la lame d'un couteau bien aiguisé. Il ne faut pas croire. Je suis un renard bien soigné. J'ai le poil brillant et mon terrier est bien entretenu. Bien que ces derniers temps, brisé par la douleur, je sois en petite forme. J'ai des vertiges et mon ventre gargouille comme si mon chagrin m'était resté au fond de l'estomac. Quand je pense que nous sommes passés si près d'un accord, vous et moi, cela aurait été unique dans l'histoire de l'animalité. J'entendais déjà les commentaires. Après des siècles d'animosité, un renard épouse une poulette. Ou une poule négocie la paix avec un renard en lui offrant sa fille. Ça aurait été quelque chose, un événement hors du commun. Vous seriez rentré dans l'histoire et peut-être même devenu la poule la plus célèbre au monde. Et je ne vous dis pas le prestige que vous en auriez retiré dans la basse-cour. Enfin, les canards, les oies auraient été obligés de reconnaître votre supériorité. Mon dernier espoir est de convaincre votre mari. Si vous veniez avec lui visiter mon terrier, peut-être qu'en discutant, nous trouverions une solution. Souvent, on se méfie des gens parce qu'on ne les connaît pas suffisamment. C'est juste la crainte qui nous retient. Venez donc à l'heure du repas, en compagnie de votre mari, et aussi de votre fille. Cela sera fabuleux. J'en salive déjà. Et si vous n'êtes pas rassuré, venez aussi avec le reste de la famille. Ce n'est pas très grand chez moi. On fera de la place, on improvisera, ce sera la fortune du pot. Et puis vous verrez, mes dents, de plus près, vous serez étonné de voir à quel point elles sont bien soignées. En espérant que vous accepterez mon invitation, veuillez accepter, Madame la Poule, l'expression de mes sentiments douloureux et distingués. Le renard. P.S. Dites à votre fille à quel point je l'aime.
Retour en plateau, la suite des correspondances du renard à la poule demain sur notre antenne. J'ai grand plaisir d'accueillir ici à Manosque Bastien Lallemand. Bonjour Bastien.
Bonjour.
On va faire connaissance avec vous. Vous êtes un jeune auteur-compositeur, musicien.
Jeune.
Laissez-vous flatter, s'il vous plaît.
D'accord, jeune.
Et qui débarque à Manosque. Manosque, pour vous, c'est un lieu particulier parce que vous appréciez particulièrement un certain Jean Giono. C'est bien ça?
Ben, pour moi, passer quelques jours ici à Manosque, c'est un peu une sorte de pèlerinage. C'est vrai que je suis un peu tombé dans l'œuvre de Giono maintenant de 2-3 ans et je lis, non pas en continu, mais régulièrement, un livre sur deux est un livre de Jean Giono. Je suis absolument fasciné par le personnage, sa littérature, sa modernité. Et puis, du coup, Manosque était devenu une ville que je voulais voir, que je voulais traverser, voilà. Donc je suis très heureux d'être ici. Énorme, ouais.
Donc vous irez, je sais, vous me l'avez dit tout à l'heure, au Paraïs, autrement dit à la maison de Jean Giono, qui a obtenu dernièrement le label Maison des Illustres. Ça aussi, c'est important. Vous aurez certainement de grandes émotions, comme tout le monde en a lorsqu'on est dans cet univers particulier, qui est l'endroit où ont été écrits tant de chefs-d'œuvre à Manosque. Jean Giono, pour vous, c'est un écrivain... léger, c'est un écrivain puissant, c'est un pacifiste, c'est qui, c'est quoi?
Léger, non.
Surtout pas.
Puissant, oui. C'est l'écrivain de la lumière, de la terre, du fleuve, je sais pas, c'est l'écrivain... c'est un écrivain qui me bouleverse, dont je crois... c'est une espèce de paysage qu'on traverse sans toujours comprendre très bien où on met les pas. Quelquefois, Il y a un aspect onirique immense. J'ai beaucoup de mal à parler de cette œuvre que j'aime tant. À chaque fois, elle me bouleverse. Elle me surprend. Et puis, en fait, Jean Giono, au départ, je l'ai abordé quand j'étais au collège. On m'a forcé à lire Regain de Jean Giono. Et à l'époque, j'ai détesté profondément ce livre. Et puis, je sais pas, j'étais pas du tout dans ça. À l'époque, je lisais plutôt Boris Vian que Jean Giono. Il m'a fallu, je crois, 20 ans pour y revenir. Et la porte d'entrée était Un roi sans divertissement. Et là, je me suis rendu compte de l'immensité de cette œuvre.
Vous avez préféré Langlois à Panturle, là, en quelque sorte.
Mais j'ai relu Regain, bien sûr, et c'est devenu un livre, enfin, le livre qu'il est, le livre magnifique qu'il est.
Avec ces personnages flamboyants de Jean Giono, bien sûr. On va parler aussi musique avec vous dans un instant, Bastien, et puis on écoutera une de vos chansons. Ce soir, vous présentez une lecture.
Alors, c'est pas tout à fait une lecture, c'est une alternance de lectures, de courts extraits, dont quelques textes que je pense qui peuvent rentrer en résonance avec certaines de mes chansons. Donc, j'alternerai un texte, un extrait de texte, une de mes chansons et à nouveau un texte, une chanson.
Et voilà. Quels auteurs vous avez choisi ?
Alors, différents auteurs, bien sûr Jean Giono, Cormac McCarthy, enfin des choses très diverses. Donc Cormac McCarthy, un auteur américain, un poète qui s'appelle Yves Bonnefoy, un auteur contemporain qui s'appelle Olivier Adam, que je crois que vous connaissez bien ici.
Particulièrement. Il a été aussi de la première aventure des correspondances et il vient régulièrement et c'est un habitué, effectivement.
Et puis un peu de Victor Hugo, parce que je lis aussi en alternance Jean Giono, Victor Hugo depuis 2 ans. Un auteur que j'ai beaucoup lu cette fois-ci adolescent, qui était Octave Mirbeau, qui est un auteur qui, je crois, a beaucoup compté et que je peux retrouver dans les histoires que je fais, parce qu'il est très cruel et j'aime beaucoup la cruauté. Enfin, ça m'intéresse beaucoup et je crois que j'en aurais fait le tour.
C'est une belle galerie, mais uniquement masculine, c'est normal ?
Je m'en étais pas rendu compte. Et je crois que je lis très peu d'auteurs féminins.
Ah, il faudra demander à Karine Ressé de vous envoyer son livre, alors, parce que c'est à découvrir. Et puis, il y en a d'autres aussi, Carole Martinez et d'autres. On va parler dans un instant musique avec vous, bien sûr. Mais avant de parler de musique, on va vous entendre, puisque vous avez dit aussi que vous allez alterner vos chansons sur scène tout à l'heure à Jean le Bleu. C'est un extrait que j'ai choisi pour bien cerner le personnage. Un extrait du Verger, ce magnifique album qui est sorti... c'était l'année dernière, je crois.
En 2010. Au printemps 2010.
Un album magnifique avec un packaging, comme l'on dit dans ce métier, particulier, avec des photos superbes, avec des textes aussi qui sont... On va en parler dans un instant. Et pour l'instant, je vous propose d'écouter tout simplement et de tendre l'oreille aux finesses au niveau des paroles de cette chanson. C'est une vie de chien. Chansons, paroles et musique sont signées de Bastien Lallemand. On se retrouve tout de suite après.
Dehors, la chienne attendait que le maître vint. Un vieux à la peau tannée, l'homme aux bottes, l'homme craint, de qui pleuvait des coups soudain. Dehors, la chienne attendait sous une pluie de chiens. Le vieil homme à le beau fumier, l'homme aux bottes, l'homme craint, de qui pleuvait des coups sans fin. De qui pleuvait des coups sans fin. Dans sa masure, sombre masure, l'homme n'entend plus son chien. Non, ça pour sûr, cette pourriture méritait son destin. La chienne attendait que le maître vînt. un vieux à la peau cramée, l'homme aux bottes, l'homme chien, de qui pleuvaient des coups sans fin. Et là, sur le vieux parquet, la gueule ouverte, le vieux à la peau trouée, l'homme aux bottes, l'homme vain, de qui jamais ne viendrait plus rien. De qui jamais ne viendrait plus rien. Dans sa masure, sombre masure, l'homme n'entend plus son chien. Non, sa poursuivre, cette pourriture n'héritait pas à son chien.
Quelle vie de chien. Comment dire l'interprétation de cette phrase quand on a entendu cette chanson de Bastien Lallemand et comment la reconnaître? Qui est le chien dans cette chanson, Bastien?
On l'aura deviné, c'est l'homme.
La pourriture.
La pourriture.
Ouais.
En fait, au départ, je me pose très souvent avant d'écrire une chanson, je me mets un projet. Telle chanson pourrait parler par exemple d'un tableau ou partir d'un tableau. Dans cette chanson, je me suis dit, est-ce qu'on est capable d'écrire une chanson dans laquelle il ne se passe rien, puisque tout est déjà arrivé, et dont le point de vue serait celui d'une chienne qui attend devant une maison. Et qu'attend-elle? Elle attend sous la pluie que vienne son maître. Or, son maître, j'en fais la description d'un homme odieux qui, sans doute, est un homme qui vit seul, peut-être dans les bois, que personne n'aime et qui n'aime personne, et qui même à son chien ne donne que des coups. Donc c'est vraiment voilà un portrait d'un vivant qui est pas très beau.
Et l'homme finit troué.
Et l'homme en fait est mort dans sa masure, à même le sol sur le plancher, et la chienne elle attend.
Donc c'est un univers noir, on l'a bien compris. Votre album porte un joli titre, Le Verger, mais ce verger aussi, c'est une chanson, c'est une chanson terrible, parce que c'est pas tout à fait un verger particulier, et c'est un petit peu, si vous me permettez, et je sais que ça va vous faire plaisir, cette comparaison, c'est un petit peu comme les arbres du sud des États-Unis dont parlait Billie Holiday, qui portaient d'étranges fruits, les étranges fruits en question étant les cadavres des Noirs américains pendus. Et dans votre verger, qu'est-ce qu'on trouve? Je vais vous laisser le dire.
Alors le verger, qui en fait la chanson s'appelle Le Verger aux Petits, en fait c'est le portrait d'une femme qui aura enterré pendant une dizaine d'années de sa vie les nouveaux-nés qu'elle aura eus, et aux racines de ces arbres, qui sont des arbres magnifiques et pleins de lumière et de fruits, se trouvent ces enfants nouveaux-nés qu'elle aura enterrés. Voilà,
Donc c'est un univers très triste, et c'est un verger effectivement très, très particulier. Vous êtes vous-même fasciné par des histoires assez sombres, par les faits divers?
Alors moi je suis fasciné par le roman en général, par la fiction, et par sa capacité, par le biais d'histoires, à raconter le vivant. Et puis pendant des années de ma vie, j'ai lu beaucoup des auteurs américains du roman noir, comme Jim Thompson, Edward Bunker, Cormac McCarthy et d'autres, qui racontent des histoires souvent sombres. C'est vrai que j'en lis moins maintenant, mais j'ai eu cette envie de faire un album dédié à cette littérature, en tout cas, et puis d'écrire un peu une espèce de micro-nouvelle. Et j'aime assez quand les chansons racontent des histoires, avec un début, un milieu, une fin, un dénouement, pourquoi pas du suspense. Donc j'essaye dans mon travail de mettre ça sur pied.
Alors c'est un album magnifique, parce qu'en plus il y a une ambiance particulière, et on va parler musique aussi dans un instant, mais vous arrivez avec des phrases très courtes, avec des espèces de fulgurances de mots, et c'est ça l'intérêt de la poésie et de la chanson, notamment par rapport au roman, eh bien, exprimer des choses assez puissantes, importantes, et à faire réagir votre lecteur. On l'a entendu dans Une vie de chien. Oui, on est tout d'un coup votre auditeur, pardon, quel beau lapsus, de dire, tiens, quand on entend Une vie de chien, on voit plus les chiens de la même manière et on voit plus les maîtres ou les responsables des chiens de la même manière. Donc c'est une belle chose. La musique, Bastien, elle a l'air très, très futile par rapport à vos textes. C'est voulu ce contraste, enfin, une musique très légère, très
oui,
souple.
En fait, je me suis rendu compte assez vite en écrivant cet album, ce qui a pris 2-3 ans de ma vie, que si je mettais une musique sombre, j'irais dans la caricature de ce projet. Et pour rendre plus fort, je l'espère, encore les histoires, j'avais besoin de leur opposer une lumière. Donc j'ai tenté, je sais pas si j'y suis arrivé, d'avoir une musique la plus lumineuse possible, avec un instrumentarium assez varié, assez léger, des guitares, des pianos, des cordes, voilà. Et j'ai travaillé avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Bertrand Belin, qui
justement,
vient ce soir.
Je parlais du banjo, Bertrand qui tient le banjo.
Voilà, qui m'accompagne depuis longtemps maintenant sur mes albums, sur l'album précédent qui s'appelait Les Érotiques, qui est aussi un album thématique, et maintenant sur Le Verger.
Il vous a conseillé sur certains morceaux. Il y a Albin de la Simone aussi.
Albin de la Simone,
vous a aidé,
voilà. Les deux co-réalisent
l'album.
Leur oreille
est intéressante pour vous.
C'est des musiciens passionnants. Moi, j'arrive toujours avec des guitares-voix, donc juste le morceau monté, composé, et puis quelques petites maquettes où je vais glisser des petites lignes mélodiques qui servent ou non. Eux, c'est un peu des trieurs. Moi, j'arrive avec un matériel assez... c'est un jardin en broussailles où il y a beaucoup de choses. Il va falloir tracer quelques lignes dans ce jardin. Et c'est avant tout des amis à moi à qui je confie les clés de ce verger en sachant bien qu'ils vont en faire bon usage.
Sans fouiller sous les arbres, hein, bien sûr.
Bien sûr.
Attention. Bastien, vous jouez également de la guitare. C'est une guitare particulière parce qu'elle a peut-être une histoire, cette guitare.
En fait, ça semble une guitare vintage, mais elle est plus récente que son allure donne à penser. C'est une Gretsch. Donc c'est des belles guitares américaines, guitare d'Elvis au départ, et puis c'est une guitare de mi-caisse. Alors au départ je suis vraiment guitare classique, guitare sèche, guitare à cordes de nylon. Et puis j'ai écouté adolescent beaucoup de musique rock, beaucoup de musique pop, et j'avais la guitare électrique j'avais vraiment envie d'en faire depuis longtemps. Donc j'ai cherché à mi-chemin entre la guitare électrique et la guitare corde de nylon, ce que je pourrais trouver. Puis cette demi-caisse me permet de travailler sans avoir à la brancher forcément sur un ampli. Donc voilà, j'aime beaucoup cette guitare.
C'est un son plus rond aussi que
ça, son plus rond qu'une guitare électrique. Ouais.
Classique entre guillemets électrique.
Mmh, bien sûr, oui.
Bastien, on vous compare souvent à Gainsbourg de la première heure, mais cet univers noir est un petit peu différent de celui de Gainsbourg, qui était quand même moins puissant en termes d'évocation. Le poinçonneur du lilas, c'est quand même plus léger que votre verger. Ça vous fait plaisir quand on vous compare à Gainsbourg ?
C'est tellement fréquent que je peux plus ni avoir plaisir ni un déplaisir de ça. C'est dû vraiment à la voix, c'est-à-dire au timbre de la voix. Et ça, j'y peux un peu rien parce que les cordes vocales, chacun a une signature vocale qui est due à la formation de ses cordes vocales. Donc c'est comme un grain de beauté en fait. On n'y peut pas grand-chose. On a un grain de beauté à tel endroit et ça fait tel visage. Et les cordes vocales, c'est un peu pareil. Plus ou moins elles sont déformées, plus ou moins on aura telle voix. Et du coup, depuis que je chante, on m'a dit, donc ça fait maintenant 15 ans qu'on me dit que le timbre ressemble à celle de Serge Gainsbourg. Mais alors j'essaye le plus possible de m'en éloigner, mais j'y arrive pas toujours.
Vous avez d'autres influences, des influences particulières en termes de musique et de chansons ?
La grande influence de mon enfance, celui que j'ai écouté, parce que mes parents l'écoutaient tout le temps, c'était Georges Brassens. Je crois connaître assez bien, voire très très bien, l'ensemble de son œuvre. C'était des chanteurs tels que Nougaro, qui aussi a cette passion de raconter des histoires, Barbara. Et puis, Ensuite, j'ai écouté, donc adolescent, beaucoup de musique anglo-saxonne qui ont beaucoup compté pour moi. Et puis, il a fallu quelqu'un comme Dominica pour faire le lien entre tout ça, entre cette chanson, chanson à papa et le rock. Et voilà, quelqu'un comme Dominica nous a permis d'ouvrir des portes et puis de concilier notre amour du texte et du texte français avec les musiques anglo-saxonnes.
On sent bien au 21e siècle que la chanson française est en pleine ébullition avec des gens dont vous parliez, que ce soit Dominica, Bertrand Belin par exemple, ou vous-même. On sent aussi que malheureusement les systèmes de diffusion ont complètement explosé. Ce n'est pas l'heure de parler de chansons françaises, non. On a des abrutis qui chantent en français et on pense que c'est de la chanson française. C'est faux. La chanson française, c'est une certaine qualité, effectivement, de texte.
C'est un grand tout. Il y a de tout, comme en littérature, comme en poésie. Je pense qu'il y a des mauvais poètes, il y a des bons poètes, il y a des bons auteurs et de mauvais auteurs. Je pense qu'il y a aussi en chanson des très bons auteurs, tels que des gens dont on a cité, donc Dominica, Bertrand Belin, des gens comme Mathieu Bogart, Dick Hunegaard, qu'on a écouté, je vois, non. Dans le générique tout à l'heure, quelques notes.
Qui n'est pas si jeune que cela, d'ailleurs.
Qui n'est pas si jeune, mais qui est encore...
Très vert.
Très vert,
ouais, ouais.
Voilà.
Donc c'est vrai que c'est une belle famille. Là aussi, il n'y a que des hommes, tiens, ça alors.
Barbara Carlotti.
Ah, ça y est, sauvée.
Si on parlait d'elle, qui a une voix magnifique et une écriture très belle aussi.
Et un personnage, elle sera notre invitée demain sur ce même plateau. Barbara Carlotti sera un grand plaisir, un grand bonheur pour nous. Votre ami Bertrand Belin est en concert ce soir, vous allez bien sûr aller l'écouter.
Bien sûr.
C'est qui pour vous, très exactement, Bertrand ?
Bertrand, c'est une première rencontre. Quand j'ai fait l'album Les Érotiques, je cherchais un guitariste pour enregistrer l'album. Et j'avais entendu ce guitariste fou lors de plusieurs concerts, notamment dans un groupe qui s'appelait Les Enfants des Autres. Et je l'avais trouvé passionnant en tant que guitariste. À l'époque, je connaissais pas son travail de chanteur. Alors on s'est rencontrés sur cet enregistrement. On est tombés fous, je crois, l'un de l'autre. On a passé beaucoup de temps depuis, quelques vacances ensemble, des voyages. On se trouve très souvent dans des lieux comme Manosque, sur des festivals. On partage des bons moments, on parle beaucoup littérature, musique. Je crois qu'on s'aime.
C'est un beau personnage, effectivement. On va peut-être, je vais dire ça à notre amie Emeline qui fait la région. On écoutera à la fin de cette émission « Ne sois plus mon frère ». C'est un extrait du dernier album de Bertrand Belin qui est magnifique. Entre-temps, on va parler avec vous, Bastien, puisque vous débarquez à Manosque dans les correspondances. C'est un moment particulier de la vie culturelle manosquine. Vous êtes arrivé hier avec vos guitares sur le dos. Quel regard vous portez sur cette manifestation ?
Ça fait des années que j'en entends parler. Je suis très honoré d'y être invité. Je savais que Bertrand l'avait fait, mais même avant, j'avais entendu parler de cette chose magnifique, qu'il y ait une ville à la littérature, à la poésie et à la musique. Donc, et puis rien que correspondance, je trouve ça très beau comme mot. C'est un mot que j'apprécie beaucoup. Et puis de moins en moins, on correspond. De plus en plus, l'ordinateur a remplacé la lettre papier, la lettre écrite. Et pourtant, paradoxalement, on écrit de plus en plus parce que l'ordinateur nous demande d'écrire. Voilà, je suis content d'être là aux correspondances.
L'ambiance vous plaît ?
Pour l'instant, beaucoup.
Oui. Et puis votre journée, elle va être chargée parce qu'après...
Beaucoup de choses à faire aujourd'hui.
Après ce plateau, il y a beaucoup de choses. Vous serez accompagné d'ailleurs d'un musicien tout
d'un
à l'heure.
D'un guitariste qui m'accompagne toute l'année sur mon projet.
Donc ce sera
qui s'appelle Pascal Collomb, qui est un très
un
bon guitariste.
Concert. Tout à l'heure, c'est à 18h, lecture et en même temps, bien tout simplement, des textes que vous avez choisis vous-même. Peut-être dans la salle, il y aura un certain Bertrand Belin, mais il sera en concert aussi le soir, donc il est peut-être très pris. Bertrand Belin, on vient d'apprendre tout à l'heure là qu'il a été, hier soir plutôt, qu'il est pour l'instant nommé, on ne dit pas nominé, hein, je dis bien nommé, c'est le bon adjectif. Il est actuellement nommé donc pour le prix Constantin, qui est un prix prestigieux pour les chanteurs, les jeunes chanteurs, les jeunes pousses, et on croise les doigts pour lui. Il sera d'ailleurs ce soir donc en concert à Manosque. On va vous remercier, Bertrand
Bastien.
Bastien, et vous transmettrez nos amitiés à Bertrand. On espère le voir tout à l'heure à Manosque, bien sûr. On vous conseille bien d'aller écouter Bertrand, Bastien Lallemand et Bertrand Belin. Comme ça, je mets les deux ensemble et je fais un tir groupé. Ils sont en concert ce soir à Manosque avec certainement des événements particuliers, car ce sont des concerts particuliers qu'on demande, vous l'avez bien compris, aux artistes ici à Manosque. Bastien Lallemand, on espère aussi vous revoir bientôt à Manosque, qui sait, c'est votre première venue, il y en aura d'autres, j'espère.
Je pense que je reviendrai, oui.
Avec grand plaisir, et vous nous direz quels sont vos comment vous aurez vécu cette visite au Paraïs dans l'antre de la création de Jean Giono. Merci encore, on va écouter une chanson de Bertrand Belin, « Ne sois plus mon frère ». Je rappelle que Bertrand est en concert ce soir à Manosque. Belin qui sera en concert avec une carte blanche très particulière au café provisoire de la MJC. C'est un concert littéraire ce soir, juste après, Olivia Ruiz qui nous ouvrira sa bibliothèque, mais je crois que le concert est entièrement complet pour ce qui est d'Olivia Ruiz. Et puis je le rappelle aussi, à 18h, Bastien Lallemand qui sera accompagné de Pascal Collomb à la guitare pour son concert littéraire. Quelques mots particuliers avec mes coups de cœur de cette cette journée. Je vais vous rappeler qu'à 14h, il y a quelque chose de particulier. C'est à l'hôtel d'Herbès, sur la place de l'hôtel d'Herbès, avec nos amis de Traces de Vie. C'est une émission qui est produite ici sur Fréquence Mistral avec nos amis de Porte-Accueil et qui présente une lecture particulière avec des textes qu'ils ont fait eux-mêmes, avec des accompagnements musicaux aussi. C'est une lecture musicale et accompagnée aussi par Sophie qui a signé la mise en scène. C'est à 14h tout à l'heure sur la place de l'hôtel d'Herbès, donc Traces de Vie, orchestré notamment par notre ami James qui sera ici même à ma place samedi matin pour gérer cette émission des correspondances. Et puis un autre coup de cœur particulier parce que son livre est magnifique, L'art de voler d'Antonio Altarriba. Il est dans une rencontre, c'est une rencontre projection animée par Pascal Jourdana à 15h tout à l'heure dans la petite salle du théâtre Jean Lebleu. Attention, il y a très peu de place. Antonio Altarriba, c'est un écrivain espagnol qui, avec le dessinateur Kim, a sorti chez De Noël Graphique ce magnifique livre, L'art de voler. C'est tout simplement la vie en Espagne d'un homme, en l'occurrence son grand-père, et c'est magnifique. On suit l'évolution de toute l'Espagne qui est passée d'un pays révolutionnaire qui a vécu une guerre terrible, la guerre civile, puis le franquisme, et puis l'abolition du franquisme, enfin bref. Et ce personnage finit de manière très particulière puisqu'il atteint enfin son rêve, l'art de voler. Il arrive à voler. Évidemment, c'est pour malheureusement finir sa vie du quatrième étage de la maison de retraite dans laquelle il vit. C'est un petit peu particulier, mais c'est un superbe livre d'Antonio Altarriba qui est en rencontre, je le rappelle, donc à 15h. Et demain matin, je crois que c'est nos amis du Petit Pois qui accueillent Antonio Altarriba à 10h30 très précise. Profitez des correspondances. Il y a aussi tout à l'heure Olivier Chaudançon en parlait, Les Mots de Rosset, c'est à 15h, et puis Henri Godard qui sera également là, Victor Poucher qui animera une rencontre avec Kamel Daoud, enfin bref, les correspondances, c'est en ce moment à Manosque. Et puis je rajoute aussi que vous pourrez retrouver toutes ces émissions sur notre site internet avec de superbes photographies aussi qui accompagneront ces émissions que vous pourrez télécharger et réécouter presque en boucle si vous voulez sur notre site internet. Merci à tous mes invités, merci aussi à Emmeline qui a assuré la régie de cette émission. Emmeline, je crois qu'il va bientôt rencontrer un certain Rosset, c'est bien ça Emmeline?
Voilà, c'est ça, si tout va bien, Rosset, peut-être bien Arthur H.
Oui. C'est donc tout. Des gens qui font aussi bien dans le rap que dans la chanson, et Arthur H, on le rappelle, là, l'angle particulier, c'est l'africanité qui le motive particulièrement. Donc il va parler notamment des écrivains noirs, et ça risque d'être assez sublime. Merci encore Emmeline, restez bien branchés sur Fréquence Mistral. Dans un instant, les infos nationales et internationales avec RFI, et on se retrouve demain bien sûr à 11h pour les correspondances.
Merci François et à demain.